Nous avons essayé de comprendre la nécessité de cette vertu de prudence. Alors je vous avais souligné, je crois ça très important, de se le rappeler que l'intelligence est le lieu de tous les habitus, en quelque sorte, au moins le lieu par excellence, puisque c'est tabula rasa, au point de départ. L'intelligence est pure indétermination. Et ceci, nous pouvons le dire en raison même du progrès que nous pouvons faire en philosophie, en science, en mathématiques. Chaque fois que vous faites un progrès au point de vue intellectuel, vous pouvez dire, oui, il y avait une potentialité là qui s'est actuée. Et comme cette potentialité s'est actuée déjà depuis un certain temps, depuis que vous avez commencé à parler et à lire, vous voyez, tout ce qu'il y avait de radical. Et c'est ça qui nous fait poser que l'intelligence est de fait en puissance. Et on montre que cette puissance est radicale du fait même que notre intelligence est ouverte à toutes les recherches de la réalité. Donc elle n'a pas de détermination a priori. Et que l'intellect agent que nous posons ensuite est pur lui-même, pure lumière, sans détermination non plus. Mais c'est une position philosophique extrêmement importante sur laquelle nous reviendrons du reste à propos de la philosophie du vivant et la critique, parce que c'est une position critique très importante, qui nous fait comprendre la grande différence entre la position kantienne et la position réaliste. C'est en définitive là où on voit vraiment le partage des eaux. Puisque pour Kant, il y a subjectivité transcendantale et des formes a priori premières, alors que pour Aristote et pour saint Thomas, je ne dis pas pour tous les aristotéliciens, mais pour un aristotélisme que je crois être le plus vrai, celui que saint Thomas a saisi. Pour ce genre d'aristotélisme, c'est-à-dire pour Aristote vu par saint Thomas, il y a en nous une capacité radicale de connaissance, mais radicalement indéterminée au point de départ. C'est pour ça que saint Thomas fait le parallélisme entre la matière première et le nous. L'intelligence et la matière première. L'intelligence est ouverte, pure réceptivité à toutes les formes. La matière est pure puissance, pure réceptivité à toutes les formes. Et d'un côté, c'est les formes intentionnelles, et de l'autre côté, c'est les formes physiques. Vous voyez, c'est très curieux, c'est intéressant, ça va pousser le parallélisme, ça va très loin, ça. Si on veut comprendre vraiment ce parallélisme entre le nous et puis la matière première, la matériel, hein, et le nous pathétikos, le nous réceptif. Alors, la materia prima est réceptive de toutes les formes physiques et le nous est réceptif de toutes les formes intentionnelles. Toutes les formes intentionnelles. Donc, vous voyez, les formes intentionnelles sont puisées à partir de la réalité bien déterminée l'intelligence. C'est pour ça que l'intelligence, pour garder son objectivité, doit être tabula rasa. Vous comprenez, t'as vu la rase, vous savez, hein? Il n'y a même pas de plat. C'est ça pousse. Tandis que là, t'as vu la rase, il n'y a rien. Aucune détermination. Aucune. Absolument. Et que tout vient s'inscrire dans l'intelligence, dans le nous réceptif. Reçu. Et les formes physiques sont reçues. Alors la différence entre ces deux potentialités radicales, c'est pour saint Thomas les deux infinis secundum quid de la créature. La créature est infinie par la materia prima, la créature est infinie par le nous. Ce sont deux espèces d'infini totalement différentes. Un infini en puissance. Et c'est intéressant à voir ça, saint Thomas dit ça, à propos de l'infini de Dieu. Enfin, est-ce que la créature est un infini? Il y en a une autre qui est un infini. En Dieu, c'est un infini substantiel. Dans la créature, c'est un infini secundum quid. C'est un infini relatif. Alors la materia prima est infinie relativement aux formes physiques, à toutes les formes physiques, et le nous est relatif à toutes les formes intentionnelles. Il est ouvert à tout. Donc il n'y a aucune détermination qui vient limiter. Et vous voyez, alors tout de suite, parce que c'est intéressant à voir la différence avec la subjectivité transcendantale de Kant. Chez Kant, l'intelligence est déterminée fondamentalement. Et ce sont les formes a priori. Tandis que ces formes a priori, chez... Alors les formes a priori viennent limiter le savoir, évidemment. Vous avez des a priori qui sont premiers, c'est tout. Alors, je présume que c'est les mêmes pour tous. Alors, on arrive encore à se reconnaître, parce que c'est les mêmes a priori pour tous les hommes, mais ça fait que l'univers n'est pas vraiment connu. Je le mesure, mais je ne le connais pas vraiment. Je ne suis pas réceptif vis-à-vis de la réalité. Je ne suis pas réceptif donc vis-à-vis de l'homme. Je vous conçois en fonction des formes a priori. Alors c'est pour ça qu'on peut toujours dire, c'est pas étonnant que vous ne me compreniez pas, parce que vous me concevez en fonction de la forme a priori. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne vous comprend pas, posez la question, êtes-vous conscient? Est-ce que vous avez des formes a priori et puis est-ce que vous appliquez ça sur moi? Alors si vous appliquez ça sur moi, c'est pas étonnant. Vous avez vos formes a priori, vous les appliquez. Tandis que pour Aristote et saint Thomas, il y a cette réceptivité, donc il y a une capacité de recevoir l'autre tel qu'il est. De connaître l'autre tel qu'il est. C'est ça la grande importance. Et ça, il faut alors aller très loin dans la passivité. Oui, c'est mettre en puissance qui prend ces deux modalités-là. Deux modalités radicales, celui de la materia prima, au point de vue physique, le nous. Et bien parce que justement l'intelligence est purement réceptivité, qu'elle a une réceptivité infinie, elle a une possibilité de recevoir toutes les formes, il y a une possibilité de recevoir des habitus. Une possibilité de recevoir des habitus qui viennent ordonner ces formes reçues. Mais ce n'est pas une détermination objective, c'est ça qui est très délicat à bien comprendre dans l'habitus, ce n'est pas une détermination objective. La détermination objective, c'est la forme intentionnelle. L'habitus est une... À l'intérieur des formes intentionnelles, elle les ordonne. Et elle permet que l'intelligence soit plus réceptive. Parce que l'habitus, c'est comme une autre nature. C'est-à-dire que l'habitus vient perfectionner la dynamis, la puissance, pour lui permettre d'être plus ce qu'elle doit être selon sa finalité. Or, la finalité de l'intelligence, c'est sa capacité de réceptivité pour être dans la vérité. C'est la condition sine qua non de toute vérité. Dès que vous avez un a priori, vous ne pouvez plus recevoir l'autre. Vous savez bien, effectivement, c'est très net. Dès que vous avez un a priori, vous ne pouvez plus recevoir. Alors si vous ne pouvez plus recevoir, vous êtes incapable d'être déterminé par lui, et donc vous êtes incapable d'être dans la vérité. Alors l'habitus vient permettre au nous réceptif d'être encore plus réceptif, c'est-à-dire de respecter davantage toutes les formes intelligibles et de les ordonner pour permettre justement une connaissance plus parfaite. Alors, la prudence, c'est cette habitude dans l'ordre de l'intellect pratique. Et cette prudence vient déterminer le nous pratique. Alors, est-ce que le nous pratique est un boulot rasant? Posez-vous la question. Est-ce que le nous est un boulot rasant? Ou est-ce que c'est simplement le nous spéculatif qui est un boulot rasant? Le nous pratique, qu'est-ce que c'est que le nous pratique? C'est le nous qui est déterminé par l'amour. Par le fait même qu'il est déterminé par l'amour et par une intention vers la finalité, il n'est donc pas un boulot rasant. Seul le nous spéculatif est un boulot rasant. Puisque là, il est déterminé Donc il a une subjectivité transcendantale, par le point de vue de l'amour, vous voyez, il a une détermination radicale. Le nous pratique n'est pas tabula rasa, il implique une détermination vers la finalité, qu'il a choisi, il a accepté, il est conscient de ça. Je suis conscient dans ma vie pratique, parce que je suis finalisé, je regarde tout sous un angle de ma finalisation. Non, c'est un fait, nous le constatons tous les jours. Et nous sommes conscients de cela. En fonction de la vie que nous menons, nous choisissons tel moyen. En fonction de ce que nous avons choisi. En fonction de l'orientation de notre vie. Et en fonction de notre orientation de notre vie, nous sommes prudents, c'est-à-dire nous sommes intelligents à l'égard des moyens. Et nous organisons ces moyens. Et comme nous l'avions vu, la prudence peut remonter plus loin dans le point de vue de l'intellect pratique pour essayer même d'accepter ou ne pas accepter à l'amour. Donc il y a là une acceptation fondamentale. Donc l'intellect pratique n'est pas tabula rasa. Hein? Bien attention, c'est là que vous voyez la différence entre l'intellect pratique et l'intellect spéculatif. Et vous voyez que la prudence s'inscrit pour déterminer l'intellect pratique, pour lui permettre de mieux choisir les moyens, de mieux s'orienter vers les moyens, d'avoir une habileté plus grande dans le choix des moyens, mais une habileté plus grande pour respecter davantage l'influence de la fin, l'influence du bien. Quand j'ai dit que l'intellect pratique est déterminé, n'est pas tabula rasa, comprenons bien, c'est une orientation vis-à-vis de la fin. Ce n'est pas une orientation vis-à-vis des moyens. Vis-à-vis des moyens, il est tabula rasa. Enfin, ça, je pourrais le dire. Je pourrais dire à l'égard des biens visibles, concrets, il n'est pas déterminé. D'où la capacité de la prudence. Il se détermine progressivement. Nous nous déterminons progressivement dans notre vie pratique. On devient un homme pratique. Ça se fait progressivement, en fonction de l'exercice que nous faisons. Quelqu'un qui on devient un homme pratique, c'est comme ça qu'on devient prudent. Rien n'est perdu, hein. Quand on a 45 ans, 50 ans, c'est déjà plus difficile si on n'est pas déjà un tout petit peu. Mais quand on a 20 ans, 30 ans, on peut encore devenir un homme prudent, même si on sait qu'on a une propension à la prudence. Et on a une propension à la prudence, voyez bien, ça c'est l'artiste qui est en nous. L'artiste aime le risque. Il aime le risque. Il aime de filer vite dans les tourments et de déraper, disons, pour se rattraper après, c'est évident. Il est sûr de lui. Mais au fond, il aime ça, il aime le risque. Et il y a toujours en nous l'artiste et l'homme prudent. Tant que la prudence n'est pas arrivée à dominer entièrement l'artiste, il y aura toujours en nous ça. Surtout quand on est un petit peu moustillé, avec un bernois derrière nous, comme ça, qui va lentement, lentement, on le dépasse, il est furieux, vous rattrape. À ce moment-là, on veut lui faire comprendre qu'on est habile et que nous ne l'êtes pas. Et alors, c'est des petites joutes et des rivalités, comme ça. Ça, c'est une durée artistique. Et alors, c'est à ce moment-là où on commet des actes imprudents. Parce qu'on est pris par la compétition. La compétition d'art artistique, elle n'est pas d'ordre prudentiel. Mais elle demande d'être dépassée par la prudence. Mais elle n'est pas toujours dépassée par la prudence. Alors il faut comprendre donc, que la prudence va jouer au niveau de l'ordre des moyens en vue de la fin. Et au niveau aussi de la fin par rapport au bien. Ce que nous avons vu la dernière fois. Maintenant, nous allons essayer de comprendre quelle est la vertu qui va naître immédiatement après la prudence. Il y a la vertu qui naît immédiatement après la prudence, c'est la justice. Vous allez comprendre. Notre volonté, la justice est reçue dans la volonté. On va essayer d'expliquer. Notre volonté, c'est un appétit. Je crois qu'il faut même dire le mot de Saint-Thomas. Je ne sais pas comment traduire appétit. Une inclination, une tendance, c'est tout ça. Alors, il faut progressivement le traduire. Hein. Appétitus, un appétit. très, très, quand je dis la petite, je traduis au bon. C'est tout simplement petit tous. Bon, c'est une inclination, c'est une tendance, c'est une orientation naturelle, un appétit spirituel. Voilà ce que c'est la volonté, c'est un appétit spirituel, ordonné au bien. Donc, capable de recevoir l'actuation du bien. Et quand l'appétit spirituel reçoit l'actuation du bien, je suis en présence de l'amour. L'amour, c'est cet acte de la volonté, l'amour spirituel, c'est cet acte de volonté face au bien qui l'attire. Vous voyez, ce n'est pas la même chose, l'amour spirituel et l'appétit spirituel. L'appétit, c'est l'état de nature. Et c'est pour ça que c'est très difficile de dire est-ce que dans le nous il y a un appétit. L'appétit naturel de voir Dieu. Non. L'appétit naturel de voir Dieu dont saint Thomas parle. C'est toujours très difficile de comprendre ce que c'est que l'appétit naturel de l'intelligence. Ça a été très développé pour Père Rousseau, Père Maréchal, toute l'école de Louvain, du côté des pères jésuites, qui ont beaucoup développé ça, et ont essayé par là de donner une certaine réponse face à Kant. Et la manière dont le thomisme voit est capable d'absorber Kant. Non, saint Thomas doit pouvoir tout absorber. Il absorbe Heidegger, il absorbe tout. Non. Le tout, c'est de savoir que l'aliment ne détermine pas la digestion. Mais que c'est autre chose. Alors, on est déterminé autrement. Alors, le point de vue de l'appétit naturel, l'appétit spirituel, donc c'est une détermination. Qui dit appétit ne dit pas tabula rasa. Je ne dis jamais que la volonté est tabula rasa. Donc, quand il s'agit du bien spirituel, je n'ai pas besoin d'habitus. Il n'y a pas d'habitus pour le bien spirituel. Il n'y a pas d'habitus pour le bien spirituel. Il y a un habitus qui doit devenir nécessaire dès que je vois ce bien spirituel se transformer non plus en amour. Il n'y a pas d'habitus pour l'amour. L'amour est naturel. Et aimer, c'est naturel. C'est ce qu'il y a de plus fondamentalement naturel que d'aimer spirituellement, le bien spirituel, une personne. Tandis qu'au contraire, regardez les droits de la personne que j'aime, le ius en latin, c'est très difficile de savoir ce que c'est que le ius. C'est pas commun du tout, hein, casser une tête là-dessus. Le droit, surtout ceux qui ont fait du droit. Alors ils vont essayer de voir ce que c'est qu'exactement le droit. C'est très difficile de se rendre compte de ça. Mais quand vous dites à quelqu'un, faites attention à mes droits. Le droit du piéton, c'est de ne pas se faire écraser, n'est-ce pas ? Et qu'on le respecte. Et donc s'il est sur le trottoir, on n'a pas le droit de l'écraser, hein, c'est mon droit. Et puis quand il y a les feux rouges, c'est mon droit, j'ai le droit de passer. Vous voyez ? J'ai le droit de passer. Même si vous êtes écrasé. Et vous mourrez de votre droit. Il demeure pour les héritiers. Donc c'est quand même quelque chose. Tandis que si vous mourrez n'étant pas dans votre droit, alors à ce moment-là, vous vous écrasez. Le droit, qu'est-ce que c'est que le droit ? Or, la volonté, dès que j'aime une personne, je respecte ses droits. Le respect. Le respect à l'égard des droits de l'autre. À l'égard de la personne humaine. Toute personne humaine, du fait même qu'elle est une personne humaine, elle a des droits. J'ai le droit à la vie. Vous dites ça couramment. Puis vous ne savez pas très bien ce que ça veut dire. Dès qu'on vous interroge, vous ne savez pas très bien ce que ça veut dire. J'ai le droit à la vie. Est-ce que vous avez le droit à la mort ? Est-ce que vous avez le droit à la maladie ? Est-ce que vous avez un droit à la santé ? Est-ce que vous avez un droit de maigrir ou de grossir ? Est-ce que vous avez un droit à ça ? Est-ce que vous avez un droit à la connaissance ? scientifique et métaphysique. Voyons, c'est dans votre avis, c'est difficile de savoir ce que c'est que le noir. C'est pas commun du tout. Le jus. L'intuitif spirituel regarde le droit d'une personne. Seule une personne a le droit. Une vache n'a pas le droit. J'ai une confession. Les Chines, vous lui demandez si elle a des droits. Maintenant, elle se tournera vers vous et elle se mettra à aveugler. À ce moment-là, vous comprendrez qu'elle a des droits. Enfin, elle a un droit naturel, quand on l'agace, de réagir. Un droit naturel, ça. Seule une personne humaine. La vache a des droits en fonction qu'elle appartient à une personne humaine. Elle n'a pas le droit de la voler. Sauf si c'est une vache sauvage, alors à ce moment-là, vous avez le droit, tu vois, ou un chat sauvage, ou un chat, s'il est domestiqué, vous avez... il appartient à quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui a un droit dessus. Et parce qu'il y a un droit dessus, il a un petit vêtement particulier, propriété privée, alors il appartient à quelqu'un, et appartenant à quelqu'un, vous n'avez pas le droit de le prendre. Qu'est-ce que c'est que le droit? C'est très difficile de savoir ce que c'est que le droit. Quand vous dites j'ai mes droits, moi, hein, je les revendique, mes droits. La revendication des droits. Il faut comprendre, il faut essayer d'arriver à comprendre comment cette habitude spirituelle qui naturellement se porte sur le bien, quand il s'agit de respecter les droits d'un autre, il y a un petit flottement. Et de sorte que cet appétit spirituel a besoin d'un habitus qu'on appellera la justice. Tout le monde accepte la justice, hein. On ne s'est pas demandé pourquoi on doit l'accepter. Comment se fait-il qu'on accepte la justice? Comment se fait-il que l'appétit spirituel ne se porte plus naturellement sur les droits, tandis qu'elle se porte naturellement sur la bonté d'une personne? J'aime naturellement quelqu'un et je dois faire un acte de volonté et un effort particulier pour respecter ses droits. Je ne fais pas naturellement. Oui, alors, comment ça se fait ça? C'est intéressant de voir ça, parce que c'est intéressant de voir pourquoi nécessairement il y a une justice qu'on doit acquérir. Et on doit acquérir la justice. Vous ne naissez pas avec la justice naturelle dans le berceau. Vous avez acquis progressivement une justice. Cette justice au point de départ, c'est une vertu de justice. Mais c'est fait très très simplement au point de départ. Au point de départ, ça s'acquiert dans une famille. Et dans la famille, il n'y a pas au sens strict de justice. Les jouets du petit frère m'appartiennent comme mes jouets. C'est vrai, on a ce sens spontané. Hein. Ça toi, c'est à moi, ça prend l'importance. On respecte encore la petite poupée, la petite sœur, à peu près. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas de droit. Au sens rigoureux, il n'y a pas de droit. Très cru. Ça, quand vous prenez l'argent dans la poche de votre père, le sens que vous retournez, vous ne commettez pas au sens strict à un vol. Vous ne dites pas ça pour vous. Au sens strict, c'est pas une question d'injustice. Parce qu'il n'y a pas de justice au sens fort. C'est très intéressant, ça. Ça prouve que la justice ne se développe qu'au niveau de la communauté politique. Au niveau purement familial, hein, au niveau purement familial, il y a une justice très embryonnaire. C'est pas une vraie justice. Puis les filiales, on honore ses parents, et les parents nous aiment. Et alors quand on aime quelqu'un, c'est bien. Est-ce qu'entre un ami et un autre ami, est-ce qu'il y a des justices? Au sens strict, au niveau de l'amitié, non. Sans strict au niveau de l'amitié, mais comme l'homme n'est jamais adéquat par l'amour que j'ai pour mon ami, je respecte l'homme. Et alors là, il y a la justice. Oui. Donc on pourrait dire que le premier développement de la justice est à l'égard d'un ami. Et ensuite, ça prend une note communautaire. Et tout ça, c'est pour essayer de comprendre la naissance de la justice. Vous voyez, c'est important d'y réfléchir philosophiquement. Au point de vue théologie morale, on dit la justice, les vertus, et puis on fait traiter des vertus. Philosophiquement, je dois réfléchir sur la nécessité de poser une vertu de justice. Et je dois essayer de comprendre comment on va mettre cette vertu de justice. Pour mieux saisir ce que c'est. Enfin, je vois la diversité des justices. Comment je vois la diversité? Il faut d'abord saisir qu'est-ce que représente cette naissance de la justice. Donc, je dis que ça vient, que cet appétit spirituel qui est déterminé quand il s'agit du bien, n'est plus déterminé parfaitement quand il s'agit du droit. Du droit de la vie. Parce que c'est là où apparaît un peu. Donc, du droit de l'homme, dans la vie. Je crois que c'est ça qu'on doit dire. Je crois que c'est là où il y a en premier lieu la naissance de la justice. Saisir, à travers l'amour d'amitié, le droit de l'ami comme homme. C'est-à-dire comme l'autre. Comme l'autre. Parce que mes propres droits, ils existent, mes propres droits. Je n'ai pas le droit de me suicider. Alors que je m'appartiens à moi-même. Donc j'ai des limites et donc j'ai des droits. Donc vous voyez, l'amour que j'ai pour moi, l'amour que j'ai pour moi-même, me fait comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus radical en moi que ce que j'aime, qui est l'homme que je respecte. Et qui fait que je ne peux pas faire de moi n'importe quoi. Il y a l'homme que je respecte. Il y a mon corps que je respecte. Et c'est important de saisir ce dépassement par rapport à l'ami et de saisir ce dépassement par moi-même. L'ami, c'est un autre moi. Alors, s'il n'y avait pas de dépassement par rapport à l'ami, je ne comprendrais pas le dépassement par rapport au moi. Le moi que j'aime, vous voyez. Le moi que j'aime, j'ai un amour pour moi-même, un amour légitime, normal, il faut s'aimer. Bon, cet amour légitime que j'ai pour moi demande d'être dépassé pour découvrir mes droits. Alors qu'est-ce que c'est que le droit? Parce que j'emploie un mot, mais qu'est-ce que c'est que le droit? Le jus. Je vous dis, c'est très difficile de saisir. C'est très très difficile. Ça s'attache à la personne. Ça, c'est sûr. Je dis, en dehors de la personne humaine, il n'y a pas de droit au sens absolu. Ça, les juristes ont raison. Ça. Alors, eux, ils étendent aussi vers une personnalité morale. Ça revient au même. Ils disent qu'il y a des droits d'une personnalité morale. Une communauté reconnue comme communauté a des droits. A une personnalité morale, elle a des droits. Hein? C'est sûr. Elle a des droits comme communauté. Mais cette communauté n'a des droits que parce qu'il y a des personnes qui sont dedans. Parce qu'un agrégat de vaches n'a pas plus de droit qu'une vache. N'a pas plus. Et les abeilles non plus. Mais s'ils appartiennent au même propriétaire, alors vous retrouvez la même exigence. Alors qu'est-ce que c'est qu'un droit? Que regarde l'acte de justice. L'acte de justice respecte les droits de l'autre. Alors, il faut, si je veux savoir ce que c'est que la justice, et ce que je veux savoir ce que c'est qu'un acte juste, il faut voir le respect du droit de l'autre. Alors, c'est très simple à regarder dans certains actes de justice que vous faites. Hein. Vous allez acheter du chocolat, et vous n'avez pas le droit de dire, ça me plaît, je l'aime bien, donc ça m'appartient. Point de vue de l'amour, c'est vrai, vous l'aimez. Alors ça m'appartient, je l'aime. Vous le gardez en stock. C'est idiot. Mais c'est fait pour être mangé. Donc moi j'ai un droit dessus, parce que je l'aime. Et vous le gardez. Vous gardez pourquoi? Pour gagner de l'argent. Tandis que moi je l'aime. Donc l'amour passe avant. Et du fait que je l'aime, et comme j'ai bon goût, j'ai un droit sur le chocolat. Et qu'est-ce que ça représente, le fait que quand vous achetez du chocolat que vous aimez, votre amour pour le chocolat ne vous donne aucun droit sur le chocolat du commerçant qui l'a acheté. Alors que vous l'aimez. C'est très curieux, ça. Il faut saisir hein, la différence entre l'amour et le droit. C'est très important de saisir ça. Il ne faut pas confondre les deux. faut pas confondre la différence entre l'amour et le droit. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est très important de distinguer les deux.
Parce que quand on commence à confondre les deux, ça va plus du tout.
Et je crois que très souvent, on peut confondre les deux. On arrive à convenir, on arriverait à voir quelles seraient les erreurs de ceux qui confondent le droit et l'amour. Le droit et le bien. Parce que c'est le bien. Bon, je pourrais exposer ces exemples pour vous faire comprendre qu'il y a une différence, quoi. Vous verriez, ce serait tolérable pour un gosse. Un gosse entre dans une épicerie, parce qu'il a vu un chocolat sur la vitrine, et que s'il l'aime, il croit que ça lui appartient. Le gosse croit absolument que ça lui appartient, parce que je l'aime. Il le prend. Il n'a aucun sens du tout de commettre un vol, il l'aime. Alors vous devez le laisser dans sa petitesse évangélique, de prendre ce chocolat parce qu'il l'aime. Je vais vous le dire, mais c'est si merveilleux, il l'aime, voyez ça, il l'aime, donc ça lui appartient. Tout m'appartient parce que j'aime tout. Non, non, il y a une différence entre l'amour et le droit. Le commerçant qui a du chocolat, il l'a acquis. Il l'a acheté. Ça lui a coûté. Il a le droit de le revendre un peu plus cher parce qu'il en a fait un stockage. Alors il a un peu plus cher pour que de fait, il a été cherché et puis il est là pour vous le donner immédiatement. Alors il a le droit. Et on dit qu'il a le droit de vendre un peu plus cher. Toujours le droit qui arrive constamment et qu'on ne réfléchit jamais sur ce que c'est. Donc quand vous achetez une plaque de chocolat au commerçant, il l'a payé, il a un droit. Vous devez lui donner une valeur semblable. Alors, le droit, est-ce que c'est ça? Est-ce que le droit, c'est tout simplement, ça se va se traduire d'une façon économique? Ça coûte tant. Non, c'est pas ça le droit. C'est pas ça le droit. J'acquiers un droit. Où est-ce que le premier moment où j'acquiers un droit? Pour voir ce que c'est. Ça qui m'intéresse. Voir la naissance du droit. Point de vue philosophique, c'est ça qui m'intéresse. Laissez après les économistes voir les équilibres qu'ils peuvent faire, laissez les juristes. Laissez après les économistes voir les équilibres qu'ils peuvent faire, laissez les juristes voir quand il y a un problème qui peut se poser. Hier, on m'a posé, un juriste m'a parlé d'un problème, une fois qu'on a discuté de cette question-là. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est dans le Valais, alors il y a des problèmes comme ça qui peuvent se poser de façon étonnante. Et donc, c'est très intéressant de voir la manière dont un juriste doit un procès et la manière dont il doit le faire. C'est pas si capable que ça, surtout quand il y a des jalousies terribles en face. C'est un problème extraordinaire. C'est de voir où est le droit. Ça, c'est le jury, c'est de temps en temps difficile de le voir. On le sent, mais de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le dire exactement. L'avocat, c'est facile, il n'a qu'à plaider une cause, ça peut être à côté, il prend les passions, il prend ça, oui, c'est pas important. Hein. Mais le juge, il doit regarder le droit. C'est pour ça que les avocats agacent les juges. Parce que... font de la sauce. Alors, on ne voit plus le droit après. Là, il prennent uniquement le point de vue des passions. Le juge doit regarder le droit. Alors, à quel moment va naître le droit? Est-ce qu'un enfant a des droits? Ben, il a des droits naturels. C'est évident, il a des droits naturels. Et il pense naturellement que tout ce qu'il aime, ça lui appartient. C'est très très connu de voir ça. Ça, je crois que tous les gosses sont comme ça. Du moins, tous ceux que j'ai vus, ils sont comme ça. Ils ont toujours essayé de comprendre. Là. C'est intéressant de voir comment. Parce qu'il aime, il a un droit. Il ne s'est pas encore posé la distinction entre le bien et le droit. Je crois qu'on peut dire que le droit naît à partir de l'usage. Quand vous usez d'une chose, vous acquérez un certain droit. À partir de l'usage. Vous êtes pris, vous voyez, l'usage de la pipe vous donne un droit. L'usage d'un outil vous donne un droit. L'usage de la terre vous donne un droit. C'est curieux, ça.
Du fait que vous usez d'une chose, vous acquérez un certain droit.
Faisons attention, hein. Vous pouvez user d'une chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors il vous a fait un contrat, alors votre droit va être très peu, parce que ça appartient à quelqu'un d'autre. Mais autrement, si vous avez inventé quelque chose, vous avez un droit. C'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui m'en suis servi le premier. J'ai un droit. Et c'est vrai, on en donne un droit. Enfin, on a fait une invention, on s'en sert le premier, on a un droit. Et on reconnaîtra qu'on a un droit. Et si c'est une chose astucieuse, on pourra prendre un brevet là-dessus. Un droit qui sera reconnu, objectivement. Alors qu'est-ce que c'est que le droit? Le droit, c'est l'homme qui, par sa volonté, domine sur quelque chose qui lui est inférieur. Quelque chose qui lui est inférieur. Alors à ce moment-là, il a un droit de propriété, il a acquis ça, c'est son bien, et à partir de là, objectivement, il a des droits. Fondamentalement, quand je dis que j'ai un droit à la vie, un animal ne peut pas dire qu'il a un droit à la vie. D'où ça vient? C'est que votre âme domine votre corps. Si votre âme ne dominait pas votre corps, vous ne pourriez pas dire que vous avez un droit à la vie. C'est la vache, d'accord? Donc, ça repose sur l'intelligence et la volonté qui domine quelque chose inférieur et peut en user selon sa finalité. C'est donc, vous voyez, c'est complexe, hein, c'est pas simple du tout de savoir ce que c'est que le droit. Il faut y réfléchir, il faut découvrir un peu ce que c'est. Et si vous découvrez quelque chose de très précieux là-dedans, ça vaut la peine, hein, parce que vous retrouverez ce problème du droit constamment. Non seulement quand vous parlez avec des juristes, mais vous le retrouverez dans la vie pour vous-même savoir qu'est-ce que c'est que la justice. La justice, respecter les droits de l'autre. C'est tout de suite dit. Qu'est-ce que c'est que le droit de l'autre? C'est le droit d'une personne. Oui. Et qu'est-ce que c'est que le droit d'une personne? C'est parce que la personne, c'est l'esprit, la personne, c'est l'esprit qui domine le corps et qui peut en user dans le sens même de sa finalité. Si c'est plus dans le sens de la finalité, je n'ai plus le droit. Au sens naturel. J'ai plus le droit naturel. Il y a un abus. Un abus du droit. Violenter quelque chose, ce n'est pas acquérir des droits. C'est un abus. Mais la volonté de puissance qui fait qu'on use une chose sans la finalité, ça ne nous donne pas le droit. On use, on violente. Et violenter ne veut pas acquérir des droits. Donc, ça implique une coopération en vue de la finalité. Si je coopère avec un outil, voyez, pour mon bien, pour réaliser une œuvre, j'acquiers un droit sur cet outil. J'acquiers un droit sur cet outil. Quel prolongement de ma main. J'acquiers un droit sur une œuvre que je fais. Parce que j'ai travaillé à cette œuvre. J'ai un certain droit. Le droit naturel là-dessus. Le travail fait que j'ai un droit sur l'œuvre que je fais. Mais évidemment, si je travaille avec un contrat qui m'enlève mon droit, au bout d'un certain temps, si ce contrat n'est pas objectivement juste, je me sentirai lésé. Parce que je considérerai que mon travail vaut plus, étant donné l'œuvre que je fais. Et je mettrai l'œuvre que je fais comparativement au contrat que j'ai réalisé. Et je verrai qu'il y a là quelque chose qui est illégal. Pourquoi? Parce que j'ai le sens que dans mon travail c'est l'application, c'est l'usage, j'use d'un outil pour travailler, que l'œuvre que je fais a plus de valeur que ce qu'on a estimé. Et je dirais, je suis lésé dans le monde. Je prends exprès ces exemples pour que vous essayiez de saisir, c'est tellement difficile, de voir une définition du droit. On dit jus, droit, très bien, il faut qu'on ait dit ça, ça y est. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas une qualité. Le droit, la personne humaine, elle est le lieu de tous les droits. Et les droits sont naturels. Quand je dis un droit naturel, c'est-à-dire son fondement est naturel. Mais il est toujours en fonction de mon intelligence et de ma volonté, de la personne qui peut user de ce moyen en vue de sa fin. Et alors à ce moment-là, j'ai un certain droit qui provient de cet usage. Je crois qu'il n'y a pas de droit en dehors de l'usage, ou en dehors d'une possibilité d'usage. Parce qu'on peut transmettre un droit. Un droit de propriété, ça se transmet. C'est ce qu'on appelle un héritage. Mais bon, un héritage, c'est pas autre chose que ça. Transmission d'un droit de propriété. Et l'État est là pour dire attention, attention. N'est-ce pas ? Autrement, c'est ça. Et c'est très vrai qu'il y a une transmission d'un droit de propriété qui fait que ça devient alors un droit conventionnel à ce moment-là, parce que c'est pas moi qui ai acquis ça. Mais quand on l'a découvert et qu'on a un certain droit, on peut le transmettre à ceux qu'on aime. On peut le communiquer. C'est curieux qu'on peut transmettre des droits. Mais qui fait bien comprendre que le droit est quelque chose d'objectif, qui n'est pas une qualité naturelle, mais qui est quelque chose d'objectif. C'est pour ça qu'on peut le transmettre. Il ne faut pas transmettre un amour. Ah, j'ai beaucoup aimé cette personne, alors tu continueras de l'aimer. Ah, très très bien, ça c'est un désir de l'ami, mais c'est impossible. Tandis que j'ai eu ces droits là-dessus, je te les transmets. Il y a quelque chose d'objectif dans le droit. Donc c'est un rapport objectif qui provient du fait même que l'intelligence humaine est capable d'user de cela en vue de sa fin. Et là, il y a un rapport objectif. Et ce rapport objectif, lié à la personne, lui donne des droits. Et c'est cela que la justice regarde. Le droit de l'autre. Le droit de l'autre, le droit de la personne qu'on respecte. Donc voilà, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que le droit. Posez-vous la question, essayez de saisir à travers les diverses expériences que vous avez ce que représente le droit et comment un acte juste respecte le droit de l'autre. Alors, pourquoi faut-il un habitus ? Je reviens sur ma question. Pourquoi faut-il une vertu alors que l'appétit naturel, l'appétit spirituel se porte normalement sur le bien et sur la personne. Sur le bien, c'est-à-dire sur la personne, en tant qu'elle est bonne. Mais le droit comparativement à la personne n'est qu'un moyen. C'est pas un moyen au sens absolu, c'est une qualité, si vous voulez. C'est pas adéquat à la personne. Donc c'est quelque chose de partiel. C'est quelque chose de limité. Donc, je peux très bien voir ce bien. Et je suis capable aussi de ne pas le voir, de ne pas le respecter. Je suis capable de respecter ou pas respecter. Je suis capable de comprendre cette relation vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce droit, ou au contraire de ne pas le respecter. Étant donné qu'il y a une indétermination à l'intérieur de cet appétit spirituel vis-à-vis du droit, et que ce n'est pas un appétit spirituel direct qui se porte sur le bien, il y a donc possibilité d'une indétermination. Cette indétermination est comblée par l'habitus. N'existe d'habitude que là où il y a l'indétermination. Que veut dire ça ? Donc, pour saisir là où un habitus est nécessaire, il faut saisir dans la faculté d'opérer une indétermination. Et sur quoi porte cette indétermination ? Pourquoi ? Pour comprendre sur quoi va porter la vertu. Bon, alors maintenant, si des questions, vous les poserez, puis on les prendra la prochaine, parce que c'est un sujet important, hein, la question de la justice, c'est un sujet très important. Nous allons maintenant voir la diversité des justices. Autrement dit, la diversité des actes de justice, et par le fait même la diversité des habitus, des vertus. Alors, ce serait le tableau, c'est intéressant à faire. Le tableau des droits de la personne humaine. Tableau des droits de la personne humaine. Première justice. Justice dite commutative. Il faut connaître les mots, hein. Justice commutative. La justice commutative porte sur res adresse. Res. Paquet de chocolat. Paquet de chocolat, ça vaut tant.
Donc, si vous prenez chez le commerçant, vous devez mettre la somme égale, parallèle. C'est ça la justice. Ça vous retient après le commerçant.
Faites ça spontanément, hein, quand vous cherchez de l'essence. Ne réfléchissez pas tellement,
bien vous faites un acte de justice quand vous payez le pompiste.
Faites un acte de justice commutative. Chaque fois que vous allez acheter des légumes, vous faites un acte de justice commutative. Donc, faites un acte vertueux.
C'est spontané. C'est normal, c'est pas difficile, je peux les mettre.
Je sais très bien que ça sent ça.
De temps en temps, quand vous êtes dans certains pays, vous dites, ah tiens, il faut marchander. Et c'est très curieux. Ça prouve qu'il y a dans la justice commutative un peu de flou. Un halo particulier. Hein? Parce qu'on sait que la personne qui vient est une étrangère. Pour les clients habituels, non, ça c'est sans doute pas. Mais pour la personne qui vient d'extérieur, ou alors elle vient d'un pays où il y a de l'argent, ça va très bien. Alors on va lui faire payer plus cher. À ce moment-là, vous le savez, et vous rabattez le prix. Normalement, on ne discute pas pour la justice commutative. Non. Mais que faire? Et c'est vrai, à ce moment-là, vous établissez vous-même la justice. Hein? Alors que la justice commutative a quelque chose de très objectif. Res ad rem. Une réalité, ça vaut tant, vous payez tant. C'est tout. Tandis que la justice commutative qui était du troc avant, alors là, vous pouvez discuter. Ça marche une paire de chaussures, mais ça vous casse pomme de terre. Hein? C'est ça, vous pouvez discuter, ou un bifteck, hein, vous pouvez discuter, ça dépend ce que vous cherchez. Alors, vous pouvez très bien discuter parce que au 30, c'est pas précis. C'est le temps de travail, l'heure de travail, hein, qui en ramènera toujours à ça. Il y a eu tant de travail, il y a eu tant de matière prise et puis le travail. Et vous mettez les deux, le travail plus la matière. C'est très vrai que c'est comme ça que vous arrivez à une objectivité du justice commutative. Vous voyez, il y a la matière, il y a le travail. Et le travail est une réalité subjective. C'est pour ça que dans la réalité, le point de vue de la justice commutative, où vous restez à rêve en disant j'ai une objectivité parfaite, attention, il y a toujours le travail. Et le travail est différent selon la qualité de chacun. Donc il y a même à l'intérieur de la justice commutative, vous voyez toujours ce droit qui touche à l'usage, qui touche au travail. Ça, on ne peut pas nier. Et on dira, cet objet est beaucoup plus cher parce qu'il est fait par un artisan. Il ne sort pas de l'usine devant Dieu. Et on vous dira ça pour vendre plus cher. Et vous apercevrez 10 minutes après qu'il n'est pas du tout fait par un artisan et qu'il est fait tout simplement à l'usine. Et vous serez, vous direz à ce moment-là que vous avez fait voler. Parce que justement, on aura attribué beaucoup plus d'heures de travail qu'il faut. Et ceci pour comprendre ce que c'est que la justice commutative. Hein. Essayez d'être conscient quand vous achetez. Réfléchissez pas trop longtemps. Justice commutative. Justice distributive. La justice distributive, c'est déjà beaucoup plus calé. La justice distributive ne regarde plus seulement res ad rem, mais la justice distributive regarde tout simplement la personne avec sa dignité de personne. Sa dignité de personne, c'est-à-dire sa fonction. Vous ne traitez pas de la même manière un petit fonctionnaire et un grand fonctionnaire. Un haut fonctionnaire. Vous ne traitez pas de la même manière. Vous ne traitez pas de la même manière un petit artiste d'un grand artiste. C'est sûr. Ça ne vaut pas la même chose, ça n'a pas la même valeur. Pourquoi ça n'a pas la même valeur? Si vraiment c'est un grand artiste, mais si c'est simplement la question de la propagande, vous voyez, qu'il est habitué, l'image qu'il a, alors. On se trompe, et c'est comme ça, souvent aujourd'hui. Hélas, c'est la marque.
À cause de la marque, ça coûte plus cher. Mais si c'est vraiment une valeur réelle, objective, très bien. Mais quand la justice distributive repose uniquement sur des propagandes, alors à ce moment-là, tout est faussé. Saint Thomas dit que les erreurs vis-à-vis de la justice distributive, c'est-à-dire les fautes contre la justice distributive, sont les fautes les plus graves au niveau de la justice. C'est beaucoup plus grave qu'au niveau de la justice commutative. Les vols sont moins graves que les injustices du côté de la justice distributive. Or, quand, en raison d'une propagande, vous faites payer beaucoup plus cher, vous allez contre la justice distributive. Or, en raison d'un individu, d'une personne, et qui n'a aucune valeur plus grande que l'autre, mais tout simplement parce qu'elle a telle ou telle dignité que vous le faites payer beaucoup plus cher contre la justice distributive. Et alors, ce qui va encore beaucoup plus loin, c'est lorsque, de fait, dans la justice distributive, vous ne placez pas les hommes dans leur fonction propre. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.